L'Afrique subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Perte de la biodiversité, sécheresse, baisse des rendements agricoles, érosion côtière, tous les voyants sont au rouge. Pourtant, à l'échelle mondiale, notre continent n'est responsable que de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Les questions liées à l'environnement sont devenues à la fois une urgence climatique et sociale. Alors, dans votre podcast Green Africa, nous allons essayer de mieux saisir les enjeux du changement climatique et entrevoir des solutions. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Green Africa. Il fait partie de ces personnes aux initiatives vertes. Il n'a qu'un seul objectif, rendre durable son cadre de vie et léguer un avenir radieux aux générations futures. Aujourd'hui dans Green Africa, nous avons le plaisir d'accueillir Abdou Touré, le Sénégalais qui est derrière la très belle initiative Quartier Vert Challenge, un concept qui a traversé les frontières du Sénégal. L'initiative pousse les jeunes à rivaliser d'imagination et d'engagement pour rendre plus propre, plus vert leur quartier. Abdou Touré, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, Parcher. C'est un plaisir de vous avoir, de partager avec vous. C'est un grand plaisir.
Plaisir partagé à Abdou Touré. Alors, comment vous est venue, Abdou, l'idée de lancer Quartier Vert Challenge?
Vous savez, Pape, comme je suis engagé avec des organisations dans des activités environnementales et porter des plaidoyers sur les questions de changement climatique, nous étions au camp climat de 2019. Et c'était juste avant COVID. Et en rentrant à la maison, nous avions comme engagement pour tous les participants au camp climat de s'engager dans leur communauté afin de changer des choses. Nous étions 350 participants. Et moi, étant un des coordonnateurs du camp climat, je me suis dit qu'il fallait que je donne le bon exemple. Et ça a coïncidé à un constat. Et quand je suis revenu à Dakar, j'ai observé que devant chez moi, il y avait beaucoup de déchets, des canettes, des tasses de café. L'environnement manquait d'arbres, il y avait beaucoup de gravats. Et c'est pour cela que je me suis décidé à commencer à faire petit à petit devant chez moi, dans ma ruelle, à nettoyer, à planter des arbres et des fleurs. Et quelques jours après avoir commencé cela, je me suis dit, bon, les autres semaines à venir, bon, je vais essayer de filmer et de partager. Je ne sais pas, au début, je ne pensais pas réellement que la chose allait exploser. Mais en fait, je le faisais pour essayer de toucher d'autres personnes, pour sensibiliser dans mon entourage et sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que, après avoir vu qu'il y avait énormément de gens qui commençaient à échanger dessus, j'ai demandé à mes amis conseils, j'ai proposé des hashtags et le Quartier Vert Challenge est sorti du lot. Et c'est comme ça que j'ai commencé à poster sur Quartier Vert Challenge en filmant, en activité, en accéléré, en essayant de faire des montages. Oui. C'est comme ça que c'est parti.
En tout cas, nous voyons que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Dites-nous, comment ce challenge a-t-il été accueilli auprès de la jeunesse sénégalaise?
Au début, c'était un peu timide, c'était pas beaucoup partagé, mais il y avait des individualités qui m'ont boosté. Au début, il n'y avait pas beaucoup d'engagement. Mais petit à petit, les gens ont commencé à se poser des questions, à me contacter, à demander conseil. Grand, je voudrais faire ceci, je voudrais planter un arbre, je voudrais faire ceci dans mon quartier. Et petit à petit, je donnais des conseils, des orientations. J'ai testé des choses chez moi que j'ai partagées avec la communauté. Et au finish, bon, énormément de gens se sont engagés dessus et dans d'autres pays. Après, bon, récemment, je viens d'avoir des retours de personnes qui me disaient, tu sais, mon cher, au début, il y a certains comme nous qui étaient au balcon qui se disaient, bon, le grand, il fait son show, la chose ne va pas marcher. Et ils ont été honnêtes de me dire cela et j'ai beaucoup apprécié cela parce que, bon, c'était pas évident du tout. Après, j'ai appris énormément de choses dessus, mais alhamdulillah, aujourd'hui, les gens se l'approprient, ça part dans deux pays. Au Sénégal, oui, voilà, il y a des associations de jeunes dans la banlieue qui s'approprient de l'idée, qui me rendent visite, qui me demandent de passer pour parler à la population, pour donner des conseils. Et Voilà, je pense que la jeune génération, une partie de la jeune génération est vraiment focus dessus, sont conscients de leur environnement et soucieux de résoudre ces problèmes.
Et également, nous avons vu sur les réseaux sociaux que vous allez souvent dans les écoles, voilà, parler aux élèves. Quelle est l'importance aujourd'hui de faire la promotion de ce challenge auprès des écoles?
Pour moi, c'est très important. Pourquoi? Parce que l'école, c'est un milieu d'apprentissage où on apprend énormément de choses. Donc, aujourd'hui, pour comprendre notre environnement, pour comprendre le rôle de l'arbre dans notre environnement, pour comprendre le rôle de l'agriculture, pour comprendre les méfaits des déchets, tout cela, nous avons pensé à un programme et l'inclure, l'apporter dans nos écoles, en collaboration avec des enseignants, des directeurs d'école, des autorités pour pouvoir développer cela. Parce que nous pensons que c'est juste une complémentarité de ce qu'ils apprennent à l'école. Donc, pour nous, les élèves sont un vecteur qu'il faut prendre en compte.
Et, d'autant plus que ces élèves voilà, vivent dans ces quartiers.
Effectivement. Et nous voyons, moi personnellement, dans mon quartier, je vois l'impact, l'influence même des enfants sur leurs parents. Beaucoup de gens pensent que les enfants ne peuvent pas avoir d'influence, mais j'observe, je vois les présidents de clubs environnement, les enfants qui sont dans le club. Devant chez eux, quand je passe maintenant, je vois qu'il y a des pots de fleurs, des arbres qui ont été arrosés, les bonnes ou bien les enfants arrosent, balayent devant leur maison. Et ça, je ne le voyais pas avant. C'est depuis que les enfants de l'école de foot ou bien de l'école du club environnement de l'école sont impliqués. Je vois énormément de changements dans mon quartier, dans différentes ruelles. Les gens venaient pour revisiter ma ruelle, mais maintenant, moi, je suis très fier en allant au boulot le matin de passer devant les maisons de ces enfants.
Disons que les graines du civisme que vous avez semées ont porté leurs fruits en quelque sorte. Le concept aujourd'hui traverse la ville de Dakar, disons les frontières du Sénégal. Quels sont les pays qui ont repris le challenge?
En premier lieu, c'était la Côte d'Ivoire avec un jeune scout, un ami, Arnold, qui m'avait contacté sur Facebook pour me dire, chef, votre initiative est très importante. En parenthèse, je suis scout, membre de l'organisation des éclaireurs du Sénégal et membre du groupe mondial du scoutisme aussi, de l'OMS. En fait, il m'a contacté pour me dire, c'est très intéressant ce que vous faites et moi, j'aimerais dupliquer cela dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Et je lui dis, oui, pourquoi pas? Nous avons discuté sur les modalités de comment pour qu'il puisse mieux comprendre le concept. Et il a créé sa petite communauté de chez lui. Et ainsi de suite, en tant que scout, partageant sur les réseaux sociaux, ayant aussi une grande communauté d'autres jeunes, ont suivi dans d'autres pays, que ce soit des scouts et des non-scouts. Et aujourd'hui, je pense qu'après la Côte d'Ivoire, nous avons eu Niamey, Niger, Dunder, Mauritanie, Mali, Guinée, Kinshasa. C'est à peu près, je pense, 16 pays. Il y a de nouveaux adhérents, il y a les lusophones et les anglophones qui commencent à s'intéresser à cela. Et donc, nous sommes 6 pays actuellement. Le dernier en date, c'est Madagascar, oui, et jusqu'à Comores aussi. Donc, officiellement, c'est 6 pays. C'est 6 pays qui sont intéressés par la chose. Nous avons des communautés dans ces pays et des gens qui s'activent dans différents types de choses, hein, que ce soit le reboisement, le cleaner, la transformation des déchets, l'agriculture, voilà.
Disons que ce sont des pays qui s'adaptent aussi en fonction de leurs besoins.
Oui, effectivement. La première chose que je leur ai dit, ne copiez pas ce que fait Abdou. Essayez de réfléchir, d'observer votre environnement et de voir quels sont les domaines sur l'environnement sur lesquels vous pouvez agir et qui sont à votre portée aussi. Il ne faut pas prendre des choses dont vous n'avez pas peut-être les moyens. Mais allez-y petit à petit. C'est pour cela, dans différents pays, on voit que certains sont intéressés par le revêtissement urbain, d'autres le reboisement, d'autres la gestion des plastiques, des déchets organiques. Certains commencent à s'intéresser à l'agriculture potagère, dans les maisons, au maraîchage. Voilà, les gens adaptent leur activité par rapport au contexte de leur pays, ou bien de leur ville, ou bien de leur quartier, des villages.
Abdou Touré, vous êtes aussi un soldat sur le front de la protection de la biodiversité. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'accord paraphé lors de la COP15 à Montréal, un accord qui ne satisfait pas tous les pays africains, mais qui prévoit quand même de protéger et de restaurer plus d'espace naturel d'ici 2030?
Oui, pour moi, c'est un bon accord. qu'il faut renforcer dans les années à venir. Nous avons observé qu'il y a 4 objectifs des cibles vers l'horizon 2030 grâce à cet accord historique de l'ONU sur la biodiversité. Il y a les zones côtières, il y a le fait de réduire le gaspillage alimentaire. Pour moi, peut-être que certains s'attendent à des budgets ou bien à des choses, ou bien à plus d'engagement, mais pour un début, je pense que c'est bon. Et l'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, nous, organisations ou bien dans le pays, je pense que sur la gestion de la biodiversité, nous devrions faire beaucoup plus d'efforts. Il y a énormément de choses à faire avec la population. On devrait commencer par penser à tous ces micro-actions qu'on devrait pouvoir faire avec la communauté, c'est-à-dire la protection de l'environnement autour de l'individu. Je prends l'exemple de Dakar. Il y a énormément d'arbres coupés sur le littoral, en banlieue, dans la construction des routes. Quand vous allez dans les mangroves, il y a beaucoup de déchets. Et je pense qu'il y a une sensibilisation à faire. Il faut que nous, organisations et États, en même temps, s'engageons à pouvoir faire ces actions, les quantifier, les évaluer, voir leur pertinence. Parce que aussi, on ne peut pas toujours aller dans les grandes messes, demander de l'argent aussi, mais sur le terrain, les gens mettent beaucoup de documents de politique qui sont vraiment très, très jolis, mais dans l'action, il y a énormément de choses qui restent. On devrait encore se mobiliser davantage et voir où se trouvent nos limites et voir où orienter les budgets.
Oui, le fossé est énorme entre la théorie et la pratique, disons ce qui se passe sur le terrain. Justement, concernant toujours la protection, Abdou, de la biodiversité, je vois que vous êtes très actif sur le terrain. Vous militez pour la protection de la mangrove. Qu'est-ce qui explique cet engagement?
Ce qui explique cet engagement, c'est que j'ai été éduqué dans ce système. J'ai été éduqué dans ce système de protection de l'environnement et d'engagement citoyen à travers la vie associative du scoutisme depuis que je suis tout petit. Donc, depuis tout petit, je faisais des campagnes de reboisement de mangroves dans les coins de Sarène, à Joal Fadjout, un peu partout, à Saint-Louis. Et ce sont ces choses qui m'ont un peu poursuivi aujourd'hui. Adulte, j'essaie de continuer la même chose. Et je m'engage aussi à côté de beaucoup d'entreprises ou de structures pour faire ensemble ce genre d'activité. Il y a un événement annuel qui se fait au Sénégal dans le reboisement de la mangrove que je fais avec Orange. Et j'en profite pour mobiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes sur cette activité.
Imaginons et concrètement, quelles sont les actions que vous menez sur le terrain pour protéger cet écosystème, rappelons-le, qui est doté d'un potentiel de captation de carbone, disons, exceptionnel?
Oui. Concrètement, sur le terrain, ce que nous faisons, nous sensibilisons les populations qui habitent dans ces environs à pouvoir comprendre la protection d'abord de ces espaces humides qui sont les mangroves. Nous les sensibilisons sur la richesse de ces mangroves. Quand ces populations protègent les mangroves, on leur fait voir qu'ils ont la possibilité de faire de l'économie, du business, parce qu'il y a le miel de mangrove, il y a les huîtres, il y a les poissons, ça rentabilise leurs actions et ça les aide à être autonomes. Après, les délégations que nous amenons, les jeunes, les femmes, les hommes qui viennent avec nous dans ces campagnes apprennent à comprendre aussi l'importance de ces écosystèmes et s'engagent à nos côtés à pouvoir planter chaque année beaucoup plus de propagules. Et c'est ce qui fait qu'on peut planter cette année 80 000, l'année prochaine 130 000, l'année qui suit encore 180 000. C'est comme ça qu'on essaie d'embarquer énormément de monde pour les amener à faire cette chose.
Abdou Touré, un soldat sur le front de la protection de la biodiversité. Je rappelle aussi que vous êtes, que c'est vous qui avez lancé, disons l'initiative citoyenne Quartier Vert Challenge. On va revenir justement à cette initiative. Est-ce qu'elle est encouragée par les autorités au Sénégal?
Au Sénégal, non. C'est la question qu'on me pose depuis. Depuis quelques temps, dans beaucoup d'émissions, bien dans d'autres pays, l'initiative n'est pas accompagnée par les autorités publiques. Ça veut dire pas l'État du Sénégal. Mais nous avons l'accompagnement et la confiance qui sont sur place, ou bien des entreprises qui viennent appuyer nos actions.
Abdou Touré, rappelle que vous êtes celui qui a lancé l'initiative citoyenne Quartier Vert Challenge. Est-ce que cette initiative est encouragé par les autorités?
Oui, en fait, depuis le début, nous avons ces questions qui reviennent, qui disent que le quartier Vert Challenge est une solution innovante et duplicable. Maintenant, est-ce que les autorités appuient? Non, les autorités publiques ou l'État du Sénégal n'a pas encore appuyé ce projet, mais ce projet est appuyé par des organisations comme l'UNESCO, comme des entreprises comme... il y a énormément d'entreprises, il y a le PNUD, il y a énormément d'entreprises et d'organisations qui essayent de nous booster, d'essayer de tester la solution un peu partout dans des quartiers ou bien dans des villages. Mais bon, c'est encore timide côté appui. Et nous avons au moins la certitude que cette solution est innovante, duplicable partout dans le monde. Et nous avons été sélectionnés récemment par UNESCO Green comme étant une organisation qui fait partie des initiatives les plus importantes, innovantes en 2022 et duplicables partout dans le monde. Le quartier Vert Challenge est ainsi vu ailleurs. Mais bon, nous continuons de faire le travail qu'il faut, nous continuons de renforcer pour pouvoir montrer que c'est une solution au Sénégal. Pour moi, c'est la chose la plus importante.
L'initiative n'est pas encouragée par les autorités. Et qu'est-ce qui l'explique selon vous? Est-ce que vous trouvez cela normal? Je pense que ce sont des initiatives que les autorités doivent encourager parce que ça permet aux jeunes de savoir qu'ils doivent s'engager pour rendre notamment plus vert, plus accueillant leur quartier, n'est-ce pas?
Oui, peut-être que c'est moi qui n'ai pas fait les démarches pour aller rencontrer les autorités. Je ne sais pas, peut-être que c'est eux qui n'ont pas encore vu l'utilité de l'initiative.
Elle est très utile.
Mais en aucun cas, voilà, vous n'avez pas parfaitement raison, c'est une solution. Et peut-être aussi, moi je le pense de manière politique aussi, ça vient d'un citoyen qui est inconnu et après, parallèlement, il y a l'initiative du président de la République, Bossouf Sétal. Je ne pense pas que les autorités veuillent mettre Bossouf Sétal. Ce serait un échec de le mettre en sourdine pour appuyer Quartier Vert Challenge. Je le vois, bon, je suis libre de le penser, mais peut-être c'est autre chose. Je ne sais pas. Je ne connais pas les raisons du fait, parce que j'ai déjà échangé dessus avec des autorités, bon, pas très, 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 mais ce sont des gens qui sont dans le milieu étatique. En tout cas, voilà, la situation est là, mais pour moi, la beauté de l'initiative, c'est le fait que la population se l'approprie. Et alhamdoulilah, énormément de gens se l'approprient aujourd'hui. Ça rend des quartiers jolis, accueillants, et on sent vraiment qu'il y a des gens qui aiment un environnement sain et qui en ont besoin. Et avec ces populations, nous faisons énormément d'échanges qui nous permettent de pouvoir calibrer. Et parce que ce qui se passe à Mbao ne peut pas être la même chose de ce qui se passe à Rufis ou bien de ce qui se passe à Mermoz. Donc, dans notre cartographie d'initiative, nous avons pas mal de solutions à proposer. Et personnellement, moi, je suis quelqu'un qui dit toujours le clean-up, ou bien le 7-7-al, comme on dit au Sénégal, je dis que ce n'est pas une solution. Parce que je sais que depuis le temps de peut-être Senghor, Abdou Diouf, Ablaïwa, jusqu'à présent, les gens ont toujours fait des clean-up. Et les clean-up en masse n'ont jamais été la solution pour rendre propre Dakar, ou bien le Sénégal, ou bien reverdir nos quartiers. Pour moi, la solution doit venir des individualités, ou bien de la population de manière générale. J'ai l'habitude de dire, nous sommes 17 millions. Si tous les 17 millions plantaient un arbre, si tous les 17 millions prenaient la peine chaque matin de nettoyer devant leur maison, de ne pas jeter leurs ordures dans la rue, ce serait vraiment magnifique. Dakar ou bien l'Afrique serait un des plus beaux endroits du monde. Mais après, voilà, pour moi, ce dont tu parlais tout à l'heure, l'accompagnement de l'État, pour moi, c'est à ce niveau que l'État doit appuyer. Travail sur la communication, mettre des moyens sensibilisation pour qu'on puisse toucher beaucoup plus de monde à travers les réseaux sociaux, mais à travers la télé, les radios. Voilà, et bouger, hein. Allez, pourquoi pas bouger, aller se déplacer dans des zones, rencontrer les populations, leur parler, voir c'est quoi leurs problèmes et essayer d'apporter des solutions de manière très pointilleuse parce que comme je le disais tout à l'heure, les problèmes de Dakar ne sont pas les problèmes de Tambacounda, ne sont pas les problèmes de la Casamance. Et peut-être que les approches peuvent différer par rapport à la société, ou bien la culture, mais je pense que c'est à ce niveau que l'État devrait appuyer, nous aider à pouvoir toucher beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde.
Abdou Touré, une personne aux initiatives vertes. Et voilà, c'est lui qui est derrière l'initiative Quartier Vert Challenge. En tout cas, Abdou, merci d'avoir répondu à nos questions. Le Sénégal est fier de vous, l'Afrique aussi, merci.
Merci, Pape. C'est un grand plaisir de partager ce plateau avec.
C'est partagé. Voilà qui referme ce numéro de Green Africa. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et de votre environnement. En plus d'être une urgence climatique, il est aussi une urgence sociale.